Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Après avoir parcouru le système solaire au gré des sept merveilles, je vous propose de nous éloigner un petit peu et d'étendre notre jeu des sept merveilles à tout l'univers. Les sept merveilles que j'ai choisies, je les fais en fonction de leurs photographies, qui ont été prises soit par les télescopes spatiaux, le James Webb Télescope ou le télescope Hubble, soit par des astrophotographes sur Terre, mais aussi pour ce qu'elles nous apprennent sur notre univers. Alors la première de ces sept merveilles, et c'est ce qui m'a donné envie de vous faire partager ma passion de l'astronomie au travers de cette chronique, ce sont les piliers de la création. Les piliers de la création, c'est un tout petit bout d'une nébuleuse qui ont été photographiés en 1995 par le télescope Hubble. La structure est située à peu près 7000 années-lumière de la Terre. Elle est située dans la nébuleuse de l'Aigle, au cœur de l'amas ouvert M16. Les piliers forment le talon de la forme d'aigle de la nébuleuse. Ces piliers sont composés de nuages d'hydrogène moléculaire, froid, de poussière, qui ont été érodés par de la photoévaporation qui a été provoquée par une intense lumière ultraviolette des étoiles à proximité. Le pilier le plus à gauche a une hauteur située entre 4 et 5 années-lumière et l'ensemble des piliers s'étend sur 55 à 70 années-lumière de largeur. Afin de comprendre l'apparition des piliers de la création, le chercheur de l'université de Cardiff, Scott Balfour, a réalisé une simulation de la naissance d'une étoile massive lors d'un effondrement gravitationnel. Et il a constaté que les vents stellaires forment une bulle, qui lors de sa croissance récolte les restes de gaz et de poussière. Selon son expérience, lorsque le rayonnement de l'étoile est faible, cette bulle vient s'effondrer sur elle-même. Par contre, si son rayonnement est assez fort, la bulle s'agrandit et crée des piliers de nuages gazeux, semblables à ceux des piliers de la création. Au milieu des années 2000, une onde de choc résultant d'une supernova a été observée non loin de la nébuleuse de l'Aigle, à l'aide du télescope spatial Spitzer. Selon ces observations, cette onde de choc aurait possiblement soufflé les piliers il y a environ 6000 ans. En raison de l'éloignement des piliers, cet événement ne serait visible sur Terre que d'ici à peu près un millier d'années. Ce qui veut dire que nous avons encore 1000 ans pour nous émerveiller devant cette création de la nature. Passons maintenant à la nébuleuse de la Carène. C'est notre deuxième merveille. C'est une des plus grandes nébuleuses du ciel. Elle est très lumineuse parce qu'elle a une magnitude de 1. C'est donc un élément 10 fois plus lumineux que la très célèbre nébuleuse d'Orion. Mais elle n'est pas visible dans l'hémisphère nord. Elle a été découverte par l'astronome français Nicolas-Louis de Lacaille en 1752, depuis le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. La nébuleuse de la Carène, c'est une nébuleuse en émission. C'est-à-dire que c'est une zone composée de gaz ionisés dans le milieu interstellaire qui absorbe la lumière d'une étoile chaude, toute proche, et qui la réémet sous forme de couleurs variées, avec des énergies un peu plus basses. C'est une zone extrêmement pourvue d'étoiles. Elle contient plusieurs amas et des zones de formation d'étoiles. Une vraie pouponnière, en fait. Et donc, en plus d'émettre des rayonnements, elle réfléchit aussi le rayonnement de ces étoiles. C'est pour ça qu'elle est très lumineuse. La zone est tellement grande qu'elle contient plusieurs zones absolument magnifiques prises en photo par le télescope Hubble ou par le James Webb. Par exemple, la nébuleuse de l'Homonocule. On pense que ce nuage bipolaire a été éjecté d'une étoile lors d'une énorme explosion observée en 1841, qui a fait brièvement de cette étoile de la Carène la deuxième étoile la plus brillante du ciel. Notre troisième merveille, c'est la quintette de Stéphane. C'est un groupe visuel de galaxies situé dans la constellation de Pégase et qui est observé pour la première fois par l'astronome français Édouard Stéphane en 1878. Stéphane le catalogue en tant qu'agrégat de nébuleuses, personne n'imaginant à l'époque qu'il s'agisse de plusieurs galaxies constituées de plusieurs milliards d'étoiles et situées en dehors de la Voie lactée. De fait, quand nous regardons le ciel, nous voyons des étoiles qui appartiennent toutes à la Voie lactée. Mais nous voyons aussi des formes diffuses, qui étaient toutes regroupées sous le terme de nébuleuses, avant que les instruments plus puissants ne permettent de différencier, entre autres, comme des galaxies ou des amas. Les galaxies sont les seuls objets que nous pouvons observer en dehors de la Voie lactée. Il y a 5 galaxies dans le quintette de Stéphane, comme son nom l'indique. 4 forment réellement un groupe compact et sont situées dans la même région de l'espace, leurs bras spiraux et leurs disques étant très déformés par les forces de marée. Ce groupe serait situé à peu près 340 millions d'années-lumière de notre Voie lactée. Mais la cinquième est en réalité beaucoup plus proche de nous et ne semble pas liée aux quatre autres. Elle se trouve juste devant l'amas compact. Et seuls les terriens ont l'impression que les cinq galaxies forment un groupe. C'est d'ailleurs le cas pour beaucoup de constellations. Leurs étoiles, même si on les voit dans la même région du ciel, ne sont pas nécessairement proches les unes des autres. Il faut toujours se rappeler que nous regardons un monde en 3D, avec une profondeur. Continuons dans le domaine des galaxies, avec la très belle galaxie du Fantôme. Dans la constellation des Poissons, M74 a été découverte par l'astronome français Pierre Méchain en 1780. Elle a été observée ensuite par Charles Messier qui va l'intégrer à son catalogue quelques semaines plus tard, ce qui explique que son nom commence par un M. M74, c'est le 74e objet dans le catalogue de Messier. Cette galaxie est un magnifique exemple de galaxie spirale vue de face. Elle est faiblement lumineuse. Il existe de très belles photos prises par Hubble, mais d'encore plus magnifiques prises par le James Webb Télescope. Encore une magnifique galaxie de la roue du chariot, dans la constellation du sculpteur. Légèrement plus grande que notre Voie lactée, c'est une galaxie lenticulaire à anneaux. C'est-à-dire qu'elle n'a pas, comme la galaxie du fantôme, des bras spiraux bien formés, mais elle a un bulbe assez uniforme. L'anneau est constitué d'étoiles bleues, massives, relativement jeunes, qui sont extrêmement brillantes. La région centrale contient de la matière relativement peu lumineuse. La forme actuelle de la galaxie de la roue de chariot serait issue d'une collision avec une petite galaxie il y a à peu près 200 millions d'années. Probablement d'une forme spirale semblable à celle de la Voie lactée, la galaxie de la roue de chariot aurait été entièrement traversée par la petite galaxie, ce qui a formé une énorme onde de choc et qui a provoqué des perturbations gravitationnelles à travers la galaxie cible. L'onde de choc s'est propagée à une vitesse d'environ 320 000 km/h, soit 90 km par seconde, en balayant la poussière et le gaz interstellaire, amorçant du même coup des formations d'étoiles dans certaines régions. L'apparition des bras spiraux ou de faibles rayons entre les noyaux de la galaxie et l'anneau extérieur de celle-ci laisse croire que la structure en spirale de la galaxie commence à réapparaître. Passons maintenant à notre cinquième merveille. Je vous propose la nébuleuse du Sablier, qui est une nébuleuse planétaire. Une nébuleuse planétaire, c'est un corps céleste qui ressemble à un disque d'aspect nébuleux lorsqu'il est observé avec des petits instruments. En raison de cet aspect, semblable à celui des planètes, l'adjectif planétaire lui a été attaché. Et il a été depuis maintenu pour conserver une uniformité historique, mais ça n'a rien à voir avec une planète. À partir d'observations plus détaillées, en particulier spectroscopiques, on sait maintenant que les nébuleuses planétaires n'ont aucun rapport avec les planètes. Il s'agit d'une coquille de gaz en expansion qui a été éjectée d'une étoile en fin de vie. Quand une petite étoile achève de consommer son hydrogène puis son hélium, son cœur s'effondre pour former une naine blanche, tandis que les couches externes sont expulsées par la pression de radiation. Ces gaz sont constitués de matières formées dans l'étoile. Ce nuage s'étend autour de l'étoile à une vitesse d'expansion de 20 ou 30 km par seconde. Ces objets évoluent donc assez vite. Ce nuage est ionisé par les photons ultraviolets émis par l'étoile qui est devenue très très chaude, entre 50 000 et 100 000 Kelvin. L'énergie ainsi acquise par le gaz est réémise sous forme de lumière de moindre énergie, notamment dans le domaine du visible. Les nébuleuses planétaires sont donc très souvent colorées, et leurs images sont parmi les plus spectaculaires. Celle du Sablier possède deux globes. Il a été présumé que la forme de sablier est produite par l'expansion d'un rapide vent stellaire à l'intérieur du nuage, plus dense au niveau des équateurs qu'au pôle. Les vents stellaires à haute énergie proviennent de l'objet stellaire au centre de la nébuleuse, probablement une naine blanche. La naine blanche, avec ses températures extrêmes, est capable de générer des atomes de matière complexe, lourds. Son noyau émet alors un champ magnétique extrême. Des champs magnétiques complexes sont à l'origine des anneaux centraux aplatis et de la lumière émise. Notre sixième merveille est sous nos yeux depuis fort longtemps. Mais c'est grâce au James Webb Télescope que nous pouvons admirer sa beauté. La sixième merveille, c'est le fond de l'univers. Et l'image que nous en avons, c'est la photo du premier champ profond de Webb. Cette image a été présentée par le président des États-Unis, Joe Biden, ce qui montre bien l'intérêt inébranlable du gouvernement américain pour son programme spatial. Ce champ profond, pris par la caméra NIRCam du James Webb, est un composite réalisé à partir d'images acquises dans différentes longueurs d'onde, totalisant 12h30 de pause. L'image montre l'amas de galaxies SMAX, tel qu'il est apparu il y a 4,6 milliards d'années, car sa lumière a mis 4,6 milliards d'années à nous parvenir. La masse combinée de cet amas de galaxies agit comme une lentille gravitationnelle, grossissant des galaxies beaucoup plus éloignées derrière lui, et nous révélant ces galaxies et ces amas d'étoiles bien plus anciens, bien plus lointains et surtout jamais encore vus. Certains de ces objets lointains seraient âgés de seulement 100 millions d'années. Ou plutôt, l'image que nous recevons de ces objets est celle qu'ils présentaient alors qu'ils n'avaient que 100 millions d'années, c'est-à-dire presque rien à l'échelle de l'univers. Alors, comment ces objets si lointains peuvent-ils être vus ? Eh bien, la lumière du rayonnement fossile, sur tout son parcours depuis son émission jusqu'à nous, rencontre un grand nombre d'objets massifs, qui créent des petites modifications dans sa direction de propagation. L'effet est bien trop faible pour produire des images multiples, mais la combinaison de toutes ces minuscules déflexions produit une distorsion des cartes de rayonnement fossile. Tous les points qui forment l'image de l'univers, près de 400 000 ans après le Big Bang, sont en fait légèrement redistribués par rapport à leur position d'origine, comme si le rayonnement fossile était vu au travers d'un verre très légèrement déformant. La dernière et septième merveille est aussi visible à l'œil nu depuis la Terre. Mais pas de n'importe où, il va falloir se rapprocher des pôles, puisque la septième merveille de l'univers, ce sont les aurores polaires, également appelées aurores boréales dans l'hémisphère nord et aurores australes dans l'hémisphère sud, et parfois lumière du nord. C'est un phénomène lumineux atmosphérique, caractérisé par des voiles extrêmement colorées dans le ciel nocturne, le vert étant largement prédominant. Elles sont provoquées par l'interaction entre les particules chargées de vent solaire et la haute atmosphère. Ces aurores se produisent principalement dans les régions proches des pôles magnétiques et dans une zone annulaire appelée la zone aurorale, entre 65 et 75 degrés de latitude. En cas d'activité magnétique solaire intense, l'arc auroral s'étend et commence à envahir des zones beaucoup plus proches de l'équateur. L'aurore polaire, due à l'éruption solaire de 1859, est descendue jusqu'à Honolulu et jusqu'à Singapour. Un phénomène d'ampleur exceptionnelle. Les régions les plus concernées par ce phénomène restent quand même le Groenland, l'Alaska, l'Antarctique, le nord du Canada, l'Islande, la Scandinavie, la Finlande, ainsi que les îles Shetland au nord du Royaume-Uni. Je vous invite bien sûr à aller admirer les photographies de ces 7 merveilles que vous trouverez très facilement sur Internet.